des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pourquoi Mathieu Bock-Côté? Ben, d'abord, je pense que je suis pas toujours d'accord avec Mathieu, mais c'est un grand intellectuel qui écrit dans les grandes revues françaises. On est chanceux d'avoir au Québec un intellectuel de ce calibre-là.
Je suis tout à fait d'accord avec François Legault, mais ça a l'air que pour l'Association des libéraux du Québec, on n'est pas chanceux d'avoir un intellectuel comme Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu.
Salut, ça va?
C'est fou quand même, là, que ben, premièrement, c'est assez flatteur de voir que le premier ministre du Québec conseille un de tes livres en disant que t'es un intellectuel de premier ordre, mais d'un autre côté, te faire censurer comme ça, puis même si M. Legault s'est fait censurer, tous ses choix de lecture sont disparus parce que il a osé s'associer à un auteur toxique comme toi.
Oui, pour reprendre les mots de Luc Ferrandez, d'ailleurs. qui a dit cela il y a quelques minutes.
Quoi, il a dit? Il a dit que t'étais toxique?
Oui, absolument. Mais il a dit ça au 98.5. Mais bon, enfin, quoi qu'il en soit, c'est son avis. Je crois qu'il a une connaissance assez limitée de mes travaux. Mais c'est pas très grave. Le point central, c'est ce qui arrive à François Legault aujourd'hui. C'est-à-dire, le premier ministre est invité pour faire sa liste de recommandations de lecture. Il le fait. Et là, au bout de quelques jours, on le sait, quelques jours environ, réaction très vive dans un très petit milieu, hein, qui est celui de la gauche radicale woke, très active, très influent, mais un petit milieu quand même, qui dit c'est scandaleux. Premièrement, comment peut-on oser inviter quelqu'un qui critique, qui conteste la théorie du racisme systémique? Et deuxièmement, comment peut-on accepter qu'il fasse la promotion d'un individu aussi toxique que Mathieu Bock-Côté? Bon, et là, tout le monde de son livre. Eh bien là, ce qui est fascinant, la première chose là-dedans, c'est que l'Association des libraires s'effondre. Elle s'aplatit, elle se couche. Autrement, et là, on est devant, c'est un phénomène de plus en plus récurrent, c'est les institutions, les administrations qui se couchent devant les militants woke, les militants radicaux, qui véritablement décident de faire une pression idéologique en les accusant de tous les noms possibles. Donc, on s'aplatit. On l'a vu à l'Université d'Ottawa. On l'a vu quand Radio-Canada a enlevé un épisode de La Petite Vie avant de rajouter un bandeau explicatif. Et là, on le voit. On retire la liste de François Legault. Ensuite, on conserve la vidéo, mais en ajoutant des petits bandeaux en disant « Les opinions ici engagées n'engagent aucunement l'Association des libraires », bien qu'on ne mette pas cette espèce de petit bandeau-là sur les autres vidéos. Donc, qu'est-ce que c'est, tout ça? C'est premièrement le révélateur de l'influence réelle de cette gauche radicale, cette gauche woke. Ce n'est plus un phénomène marginal. C'est plus un phénomène cantonné au département de littérature comparée d'une université périphérique. C'est un phénomène qui est aujourd'hui au cœur du pouvoir culturel, au cœur du pouvoir universitaire. Et devant cela, la plupart tremblent parce que cette petite gauche radicale est très violente idéologiquement. Elle utilise les pires insultes racistes, sexistes, xénophobes, toutes les phobies disponibles. Donc devant cette espèce de violence idéologique, violence verbale utilisée, eh bien, la réaction des institutions, c'est de s'aplatir. Et souvent même d'être complice. Faut pas oublier que l'Université de Montréal, par exemple, a demandé un rapport à une chercheure qui a dit qu'il fallait désormais équilibrer la liberté d'expression des conférenciers en tenant compte de la sensibilité des étudiants issus des minorités. Donc, cette espèce de censure, elle se normalise par le haut. Hein. Elle est imposée par le bas, elle se normalise par le haut et elle vient de frapper François Legault.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
C'est fou, Ren, mais comme tu dis, là, on en riait de ces groupes-là, mais là, y a rien de drôle. C'est vraiment extrêmement inquiétant. Et de voir des institutions, comme il y a eu le Festival de jazz qui s'est écrasé devant les gens qui étaient contre la pièce de théâtre de Robert Lepage, comme il y a eu Radio-Canada qui s'est écrasé devant une plainte concernant La Petite Vie, une seule plainte. Et là, ils n'ont pas un devoir, eux autres, ces gens-là, surtout, Christine, une association de libraires, de défendre la liberté.
Ben ça, c'est ça le paradoxe, hein, ou l'élément triste. C'est que les institutions qui devraient défendre la liberté aujourd'hui, la liberté d'expression, les universités, les médias, les libraires, se couchent devant ceux qui aujourd'hui veulent établir une forme de nouvel index, établir une nouvelle orthodoxie et surtout établir une nouvelle liste d'hérétiques, d'infréquentables. Le paradoxe là-dedans, c'est que le bouquin en question ici, l'Empire du politiquement correct, que je nous fais paraître l'an passé, qui, soit dit en passant, ça c'est quand même drôle, sort en livre de poche ces jours-ci, je pense aujourd'hui ou hier, tous comme ça. Eh bien, j'analysais dans ce livre-là les nouvelles formes de la censure, les nouveaux mécanismes de la censure, la nouvelle logique de la censure dans nos sociétés. Comment on distingue un fréquentable d'un infréquentable, un modéré d'un radical, un humaniste d'un sulfureux, ce que j'appelle les techniques d'infréquentabilisation. Alors, comment on rend infréquentable quelqu'un? Comment on lui colle une série d'étiquettes détestables? Comment il suffit désormais de mentionner un nom pour susciter immédiatement une réaction dégoûtée? Et apparemment, puisque c'est mon nom désormais, et bien je dis désormais qu'on risque de devoir m'appeler le nom en MBC, hein, ou le MBC World. Je serai la nouvelle expression interdite. Mais au-delà de la boutade, ce qui est triste là-dedans, au-delà de ma petite personne, soit dit en passant, c'est qu'il y avait 9 autres livres sur cette liste-là en passant. 9 autres livres, 9 autres personnes qui étaient recommandées par le premier ministre. Eh bien, eux aussi, victimes collatérales de la censure, parce qu'on doit désormais les laisser de côté. On doit désormais ils doivent finalement payer le prix parce qu'ils auront eu la malchance qu'on dise du bien d'eux à côté de quelqu'un dont on ne doit dire que du mal. C'est assez triste, en fait, mais c'est une logique de censure qui ne cessera pas. Hein. Quand j'entendais Fernandez dire au 98.5 il y a quelques minutes que tout ça va s'effondrer, tout ça va s'épuiser parce que c'est marginal. Mais c'est pas marginal du tout. C'est pas marginal du tout. Ça commande aujourd'hui les universités. Le pouvoir culturel, pour le dire entre guillemets, le pouvoir culturel aujourd'hui est dominé par la logique woke. C'est lui qui fixe la norme. C'est-à-dire, on vit quand même dans un monde où affirmer, puis ça, je reviens souvent sur cet exemple-là parce qu'il est important pour moi, qu'une femme a des règles et un homme n'en a pas, ça, c'est un propos haineux aujourd'hui. C'est-à-dire, passe encore sur un propos controversé, mettons, même si ce n'est pas vraiment à mon avis. Mais c'est un propos haineux. Donc là, la liste des propos haineux se multiplie, la liste des propos interdits se multiplie, le périmètre des idées autorisées se rétrécit, la logique de la censure se déploie, et devant tout cela, on nous dit c'est pas grave, ce ne sont que des jeunes, ils vont vieillir et prendre de la bedaine. Eh bien non, c'est pas ce qui va se passer. Cette logique de censure se déploie aujourd'hui au cœur des essais.
Et le pire, c'est que monsieur et madame tout le monde, les gens qui ne sont pas là, dans ces chicanes-là là, de chapelle et d'église, là, ils voient pas de problème à ce qu'un livre soit publié. Tu sais, j'ai reçu tantôt un courriel de Blaise Renaud, le patron de Renaud Bré. Il dit, je veux rien te dire que Renaud Bré et Archambault, on ne fait pas partie de l'Association des libraires du Québec, et non seulement ça, mais le livre de Mathieu Bocoté est un coup de cœur.
Oui,
c'est un coup de cœur chez
Renaud Bré. C'est un coup de cœur Renaud Bré. Je me rappelle encore en 2007, l'émotion. Je ne dis pas ça pour flatter qui que ce soit. Quand je vais dans une librairie, et là, ma dénationalisation tranquille vient de sortir, et c'est un coup de cœur Renaud Bré. Ah, mais j'étais d'un enthousiasme fou. Parce que là, je me disais, mais ça, franchement, parce que c'est surtout pour un intello, c'est bête à dire, mais les intellos ont l'habitude de se lire entre eux. Et là, quand un livre trouve un accès à un public plus large, plus vaste, et c'est une forme de reconnaissance de la non pas au dire de la valeur intrinsèque du travail, ça on verra, mais du fait que ces idées-là peuvent trouver un écho. franchement, j'en étais pas malheureux. Et de ce point de vue, je trouve que ça nous dit que finalement, comme diraient les militants français, pas d'amalgame. Alors, tous les libraires, on ne doit pas les mettre dans le même sac. Mais l'association des libraires, aujourd'hui, j'espère qu'elle va reculer, hein, franchement. J'espère qu'elle va changer d'idée. Mais elle nous en dit, c'est une association qui censure plutôt qu'elle ne met en valeur.
Et c'est assez rigolo aussi, l'ironie de la chose. C'est-à-dire que là, on a une grande chaîne. Et habituellement, dans le milieu de la littérature, on chiale contre les grandes chaînes parce qu'ils nous imposent des succès commerciaux, des best-sellers et tout ça, alors que le petit libraire est là justement pour le monde des idées, pour le monde des débats. Là, tu as l'association des petits libraires qui prônent la censure, alors que tu as une grande chaîne qui supposément devrait loger dans le camp des méchants, qui donne un coup de cœur à un essai. C'est assez particulier,
oui,
ça.
Ben, ça nous en dit beaucoup aussi, c'est-à-dire on se retrouve ici, si on est devant une industrie, entre guillemets, eh bien, faut rejoindre minimalement le lectorat, c'est-à-dire les gens, leurs préférences, tout ça. Eh bien, manifestement, Renaud Bré sait que ses lecteurs ne pensent pas tous la même, ses clients ne pensent pas tous la même chose. Il y a des gens de gauche, de centre, de droite, des souverainistes, des fédéralistes, des autonomistes. Et surtout, la fonction du libraire n'est pas de nous dire quels sont les livres autorisés, quels sont les livres à l'index, c'est de rendre disponible la diversité des possibilités éditoriales et diversité des ouvrages pour que, selon notre sensibilité, selon nos goûts, on puisse se procurer un livre. Eh bien, manifestement, il y a des libraires qui se prennent pour des militants, mais non pas des militants de la culture ou des militants de la lecture, mais des militants idéologiques qui se croient la responsabilité de fixer un nouvel index. Hein? Et de ce point de vue, il faut voir que les nouvelles autorités cléricales, là, c'est plus ce qui reste de l'Église catholique au Québec. Les nouvelles autorités cléricales, c'est les mouvements woke qui, aujourd'hui, ont le pouvoir immense de fixer des interdits symboliques. Dans mon livre, le livre interdit, appelons-le comme ça, je disais que le véritable pouvoir aujourd'hui est de créer le scandale. Eh bien, manifestement, créant le scandale autour de la publication de ce livre et de cette liste, au point même où on se permet de censurer, eh bien, ça nous en dit beaucoup sur le pouvoir réel de cette mouvance. Mais devant cela, moi, je pense qu'il y a une chose à faire, c'est se tenir, ne pas se coucher, ne pas s'aplatir. C'est beaucoup de
mais j'espère qu'il y a des libraires indépendants. Puis j'entendais, là, tantôt, je parlais à une libraire de l'Abitibi qui était absolument pas d'accord avec la décision de son association. J'espère qu'il y a des libraires indépendants qui vont le dire publiquement et qui vont condamner publiquement leur association.
Ben, je veux le croire. Je veux le croire. Mais je vais donner un exemple. En 2019, t'en souviens probablement, je devais faire, quand j'ai sorti mon Empire du politiquement correct, j'ai fait un lancement. Puis après ça, je devais faire une conférence dans une librairie à Montréal. Menace d'un groupe d'extrême gauche qui dit on va briser les vitrines peut-être, on va jeter des ballons de peinture sur les livres. La librairie décide d'annuler l'événement. Autour de ce même livre, en passant, quelques jours après l'événement ou quelques semaines après l'événement, s'est tenu finalement dans une autre librairie le livre Voyageur de Bruno Lalonde sur la rue Bélanger, une librairie d'occasion. Donc je pense pas qu'il est membre de cette association des libraires, cela dit. Mais on trouve ici et là pour les fréquenter parce que je passe une partie significative de ma vie dans les librairies. J'ai toujours eu des rapports personnellement cordiaux et courtois avec les libraires. Je pense que c'est un milieu qui est fondamental, mais manifestement, on trouve dans ce milieu, ou à tout le moins à l'Association des libraires, un nombre significatif de militants qui se comportent comme des censeurs. Mais j'ose croire, croire que l'immense majorité des libraires ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans leur association et qu'ils ont honte de leur association.
Sinon, on va aller acheter nos trucs dans les grandes chaînes, Renaud Bré, Archambault, puis sinon Amazon, Christy, tu sais, à un moment donné, là...
On est quand même devant des gens qui veulent nous pousser vers Amazon. C'est quand même drôle.
Ben oui.
Si le livre, ils ne le tiennent pas, puis pas seulement lui, parce qu'on comprend, si ça arrive à mon bouquin, bon, mais ça arrive à quels autres bouquins? C'est assez rare qu'un cas soit absolument unique. Quels sont les autres livres qui sont dans une même situation? Mais poussons plus loin. Le premier ministre ne devrait pas s'exprimer sur les livres parce qu'il n'adhère pas à la théorie du racisme systémique. Est-ce qu'on peut avoir droit à la liste des idées auxquelles on doit adhérer ou auxquelles on doit dont on doit se tenir loin pour avoir le droit de s'exprimer publiquement? Pourrions-nous avoir la liste des mots autorisés, la liste des titres qu'on peut mentionner? Ça devient intéressant. Il faudrait quand même clarifier ça un peu. Sinon, on est dans quelque chose d'à la fois thématique et nébuleux. Comprend dans ça la logique de l'autocensure. Parce que là, on a peur, on craint, on se dit, ah, mais j'ai pas envie que ça me tombe dessus. Et si, je me permets de dire, si tu savais le nombre de personnes que je connais dans les milieux intellectuels qui discrètement me chuchotent à l'oreille,
moi, je suis
souvent,
capable.
Ils sont d'accord avec
plus
moi.
Capable, plus
mais,
capable.
Mais faut pas le dire parce que...
Moi, je suis plus capable. Il y a un humoriste noir là, qui a dit des saloperies sur Sophie. Ah, si tu savais le nombre de gens qui m'ont contacté en disant on est avec toi, mais ils le disent pas publiquement. Mais moi, quand tu m'appuies rien que dans mon oreille, ça ne compte pas. Je préfère que tu ne m'appelles pas. Je préfère que tu ne m'écrives pas. Tu m'appuies publiquement. Tu sens tes couilles, tes mains sans table ou tu fermes ta gueule.
Ben, on est quand même dans un moment étrange où c'est le grand écartèlement intellectuel. En privé, on se permet de penser des choses, on les chuchote même à son ami, et publiquement, alors moi c'est une chose, on peut ne pas dire tout ce qu'on pense, hein. Je devine, on n'est pas obligé d'envie de raconter le détail de cette liste d'épicerie. Donc, mais quand on dise le contraire de ce que l'on pense publiquement, moi c'est ça qui m'étonne quelquefois. C'est-à-dire, on peut dire une chose, puis on peut atténuer son propos, on peut le modérer, on peut se dire, ouais, c'est faux. Mais quand on dit le contraire, ou quand on garde pour soi ses convictions les plus profondes, et que publiquement, on décide de s'aplatir, eh bien, ça nous en dit beaucoup sur la peur dans les milieux intellectuels. Oui. Le manque de courage, peut-être, mais la peur aussi. La campagne qui est tombée sur l'espèce des propos abjects, atroces sur Sophie, moi, ce qui me fascine, c'est que si on avait dit ça sur n'importe quelle autre femme au Québec, la mobilisation aurait été totale. Mais puisque Sophie a ce mauvais goût de mal penser sur des questions question officielle et de ne pas endosser toutes les idées autorisées et prescrites, eh bien, soudainement, on détourne le regard, on sifflote, on fait comme si rien n'était. C'est abject. Donc ça, c'est ce qu'on... C'est le, appelons ça le club des alliés discrets, le club de ceux qui nous chuchotent à l'oreille de continuer, mais qu'eux ne peuvent pas. Il y a même ceux qui vont nous confesser, on en connaît, ou qui vont nous dire, oui, je t'ai mentionné de manière très critique, mais tu comprends, dans mon milieu, il faut que je fasse ça si je veux avoir ensuite le droit de dire la même chose que tu penses. Ah, ça, j'en connais aussi.
Ah, c'est cœur, hein,
c'est ça. C'est plutôt amusant, finalement.
Des hypocrites, des pleutres, ça n'a pas de bon sens, on s'en reparlera.
C'est la bêtise humaine qui toujours nous étonne.
Dégueulasse. Ça me fait vomir l'hypocrisie de ce milieu-là. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Merci.
Bonne journée, bye-bye.
Martino, souvent imité.